Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, édition spéciale élection américaine en ce mardi 8 novembre 2022. Bonsoir, bienvenue. Voilà, ce jour d'élection aujourd'hui aux États-Unis. L'équilibre de pouvoir est en jeu au Congrès américain, dominé par les démocrates en ce moment. Les électeurs décideront s'ils vont soutenir le président Joe Biden ou transférer le pouvoir aux républicains. La correspondante de VOA au Congrès, Catherine Gibson, s'est rendue en Géorgie, un état clé du sud du pays. Le récit est de Nathalie Barge.
De la Pennsylvanie à l'Ohio, du Nevada au New Hampshire, les candidats de plusieurs États ont rivalisé en campagne jusqu'au jour de ce scrutin crucial qui décidera de la direction des États-Unis pour les deux prochaines années. En Géorgie, la journée commence par une prière. Emmett Shead est un partisan du candidat républicain au Sénat, Herschel Walker.
Après tout ce que les démocrates ont fait, je ne peux tout simplement pas m'asseoir et laisser le pays prendre du retard. La crise à la frontière est hors de contrôle et il ne semble pas que Joe Biden va faire quoi que ce soit à ce sujet.
Dans un récent sondage du centre de recherche Pew, plus des trois quarts des électeurs interrogés ont déclaré que l'économie est leur principale préoccupation. Amanda Douglas, électrice de Géorgie.
Le marché du logement, le prix de l'essence, vous savez, que dans les épiceries, la nourriture est très très chère et il y a des articles que vous ne trouvez même plus.
L'adversaire de Herschel Walker, le sénateur démocrate Raphaël Warnock, a remporté un second tour en janvier 2021 qui a donné aux démocrates le contrôle du Sénat. Axel Hawkins, électeur de Géorgie.
L'économie est le problème numéro un pour moi. Et je pense que le Parti démocrate et le sénateur Warnock en particulier se concentrent vraiment sur les problèmes quotidiens des Américains ordinaires. Les républicains aiment parler de la bourse et de tout.
Après la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a mis fin au droit fédéral à l'avortement, certains problèmes sociaux ont motivé des électeurs indépendants à voter pour les démocrates. Teresa Almend, électrice de Géorgie.
C'est très préoccupant pour moi. Je pense que tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé, quelles que soient vos opinions personnelles sur la loi Roe versus Wade ou l'avortement.
Les électeurs de Géorgie, comme de la Pennsylvanie ou de l'Ohio, sont essentiels pour décider du contrôle du Sénat américain. 35 États sont dans la course avec une poignée de scrutins à l'échelle nationale qui détermineront quel parti détient une faible majorité. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont également en jeu.
Vous l'aurez donc compris, la Géorgie est l'un des États clés qui fait partie des six dans lesquels s'est jouée l'élection présidentielle américaine de 2020, avec un faible avantage final pour le démocrate Joe Biden. Cette année, pour les élections de mi-mandat, les républicains entendent jouer les premiers rôles dans cet État et les démocrates restent vigilants pour expliquer la situation particulière de l'État de Géorgie. Eddie Isango a joint sur place à Atlanta Dorine Gandou-Loukabou, un ancien gouverneur du Kassai installé à Atlanta.
Actuellement résident aux États-Unis, précisément dans la ville d'Atlanta. Je suis spécialiste en stratégie des campagnes. Actuellement, je travaille dans le bureau d'enregistrement des électeurs à Fulton County, ici à Atlanta, Georgia. Que nous avons ici des candidats sénateurs qui se disputent le terrain. Et il y a des candidats gouverneurs. Il y a les gouverneurs qui est en place, Brian Kemp, et aussi il y a la candidate Stacey Abrams. Ça ne vaut pas la peine parce qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur la gestion de démocrates. Ils n'ont pas pu maîtriser le terrain comme ils le prétendaient. Il y a des crimes, on le reproche des crimes à tous les niveaux. Ils n'ont pas pu maintenir le prix des choses, des denrées alimentaires, donc disons l'inflation. Partout, il y a eu le sujet de ce qu'on appelle des avortements. Ils n'ont pas pu le maîtriser, la gestion des COVID-19, ils n'ont pas pu le maîtriser. Donc, il y a beaucoup qui pèsent sur la gestion de M. Joe Biden. Ainsi, il perd le terrain. Donc, ce soir, soyez rassurés avec toutes les analyses possibles. Je vous assure que je suis dans le bureau de vote et je peux vous dire que il y a même les Noirs américains qui est républicain, qui part favori. Déjà ce matin, il était au-dessus de celui qui est sénateur en place. Donc c'est un problème sérieux. Et le gouverneur des provinces, lui, qui est ici dans notre état de Géorgie, il a même ce que nous appelons de double digit. Il a 53. Déjà ce matin, il était autour de 53. Tant l'autre démocrate, la dame Stacey Abrams, était à 43. Donc c'est une histoire déjà très bien avant. La journée est encore longue. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais je vous donne les assurances que pour Georgia, le républicain va rappeler le dépôt.
Voilà l'opinion de Doreen Gandou Lukabu, ancien vice-gouverneur du Kasaï, résident d'Atlanta, en Géorgie. En Pennsylvanie, républicains et démocrates se disputent âprement un poste de sénateur. Cet état-clé a récemment vu la visite des anciens présidents Obama et Trump, ainsi que l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Pour une réaction, Abdourahman Dia, adjoint à Philadelphie, en Pennsylvanie, Mamadou Ben Diabaté, un Américain d'origine malienne qui vit dans cette ville depuis une trentaine d'années.
Voilà, je viens même tout juste de voter. Et il faut reconnaître que cette année, le midterm, il y a eu vraiment un vrai engouement autour de ce midterm-là ici à Philadelphie. Parce que le bureau de vote est tout juste à côté de moi. Et à part les élections présidentielles, je n'ai pas vu de monde comme ça.
C'est vrai que ces derniers jours, on a vu la visite des anciens présidents Obama et Trump, ainsi que le président Biden. Qu'est-ce qui explique un peu cet engouement et l'intérêt pour la Pennsylvanie?
Bon, vous savez, la Pennsylvanie est un, comme on appelle, swing état. Donc ça peut changer.
Un état clé.
Oui, c'est un état clé. C'est souvent, ça change. Souvent c'est républicain, souvent c'est démocrate. Donc, il n'a jamais été un côté ou de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, l'engouement de Pennsylvania, vous savez, il y a une chaise qui est laissée par les républicains. Et les démocrates sont en train de se battre pour récupérer la chaise-là.
Au Sénat?
Au Sénat. Mmh. Au Sénat. Au cas où ils perdent quelque part. Donc, et les républicains aussi sont en train de tout faire pour qu'ils puissent avoir la majorité. Il faut qu'ils gagnent ça. Donc, c'est vraiment un combat. Je n'ai jamais vu ça.
Dites-nous un peu, la communauté africaine, notamment malienne, comment est-ce qu'elle se mobilise? Est-ce que c'est une élection qui l'intéresse, cette communauté africaine en général?
Oui, beaucoup même maintenant. Et avant, on appelait les gens, mais maintenant, maintenant beaucoup de personnes s'intéressent au midterm maintenant, et parce que les gens commencent à comprendre et puis la politique américaine. Ils savent que le président seul ne peut pas décider et les lois, il faut le Sénat et donc les gens commencent vraiment à s'intéresser et surtout il y a beaucoup de gens maintenant qui sont citoyens. Donc, les Maliens commencent à prendre conscience de ça et ils votent maintenant beaucoup.
Voilà, c'était Mamadou Ben Diabaté, un résident de Philadelphie, en Pennsylvanie. En toile de fond de ces élections parlementaires ici aux États-Unis, c'est la présidentielle de 2024 qui se profile déjà, battue par Joe Biden il y a 2 ans même. Même s'il continue de refuser de reconnaître son échec, l'ancien président républicain Donald Trump a laissé entendre à ses partisans qu'il pourrait repartir en campagne en leur promettant lundi soir dans l'Ohio une grande annonce le 15 novembre prochain. Quelques électeurs d'origine africaine donnent leur avis sur ce scrutin.
Je réponds au nom de Neymar François Chérif, je réside à Washington D.C. En tant que républicain que je suis, il y a certains sujets de la société qui nous intéressent, notamment sur le plan économique. Il y a l'inflation qui est galopante et que le président Biden n'a pas pu maîtriser jusqu'à présent et qui affecte sévèrement les ménages des foyers américains. Et sur le plan politique international, l'Amérique a perdu sa place. La visibilité de la politique étrangère américaine n'est pas apprécié par nos alliés traditionnels et sur le plan, disons, sanitaire, le fardeau de Obamacare qui est sur le peuple américain doit céder sa place à la responsabilité individuelle sanitaire. Chacun doit être capable de s'octroyer une assurance santé au lieu que le gouvernement fasse à une priorité et qui occasionne l'intrusion du gouvernement dans la vie privée des citoyens américains. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Américains de voter pour les candidats républicains dans tous les États pour que cette élection soit une victoire écrasante pour le Parti républicain, pour que les républicains reprennent le pouvoir à la Maison-Blanche, le Congrès, les deux branches du gouvernement, notamment pour les années à venir. Je vous remercie.
Je suis Luc Sangari, immigré d'origine malienne. Et pour ce qui est des élections de cette année, naturellement, je vote républicain. Et ce qui me préoccupe, comme la plupart des Américains aujourd'hui, c'est l'inflation. À cela s'ajoute la très mauvaise politique d'immigration. Je suis un immigré, je suis pour l'immigration, mais pas de cette façon. Il y a aussi le retrait d'Afghanistan, qui a été calamiteux, sans compter les valeurs de la famille. Je suis pro-famille. Donc c'est pour tout cela que je vote républicain aujourd'hui, demain et toujours. Merci.
Voilà, Jean-Roger Billon à ce micro. Je rappelle que nous avons une couverture spéciale des élections américaines ce 8 novembre 2022. Élections spéciales. Nous retrouverons donc l'un de nos reporters sur le terrain, Mamadou Omfa, dans un instant. Mais avant d'y arriver, les nouvelles africaines maintenant. Voilà, vu à Fondion, pas le continent. En RDC, l'armée qui a déployé dans l'est du pays deux avions de chasse Sukhoi S5 a bombardé ce mardi des positions du mouvement rebelle M23. Lundi, le Rwanda avait protesté déjà contre la violation de son espace aérien par un autre Sukhoi S5 congolais. Kinshasa a reconnu un survol malencontreux du territoire rwandais lors d'un vol de reconnaissance par un avion non armé. Les relations sont très tendues en ce moment entre le Rwanda et la RDC depuis la résurgence du M23 qui, selon Kinshasa, bénéficie du soutien de Kigali, ce que le Rwanda dément. Les autorités tanzaniennes ont annoncé mardi que l'épave d'un avion qui s'était abîmé dimanche dans le lac Victoria a été extraite de l'eau après l'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières de l'histoire du pays. 19 personnes sont mortes lorsque l'avion de Precision Air a plongé dans les eaux du plus grand lac d'Afrique à une centaine de kilomètres de l'aéroport de Bukoba dans le nord-ouest du pays. Un ressortissant kényan et un britannique figurent parmi les victimes, a déclaré le porte-parole du gouvernement devant des journalistes à Bukoba, ajoutant qu'ils sont en communication avec les ambassades respectives pour acheminer les corps. Au Soudan, des milliers de personnes ont manifesté ce mardi encore sous les gaz lacrymogènes de la police pour dénoncer le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan qui a plongé le pays dans le chaos. Nous ne quitterons les rues que lorsque nous aurons atteint les objectifs de la révolution, a déclaré Samer Omar, un manifestant. Selon des habitants, des milliers de Soudanais ont aussi manifesté à Wad Madani, dans le centre du pays, et à Guédaref, dans l'est. Un an après le putsch, aucun observateur n'imagine possible la tenue des élections promises à l'été 2023 et aucune figure politique ne semble prête à rejoindre le gouvernement civil annoncé par le général Burhan. Le camp pro-démocratie redoute un retour à l'ancien régime Béchi alors que le pays ne cesse de s'enfoncer dans la crise. Le président français Emmanuel Macron annoncera demain mercredi officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, un peu moins de 3 mois après le retrait des soldats français du Mali, a indiqué ce mardi l'Élysée. Cette annonce sera sans conséquence sur le dispositif militaire français de la région. Quelques 3000 militaires français sont encore déployés au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. La région de Gao dans le nord du Mali était à l'arrêt ce mardi après un appel des syndicats et d'organisations de la société civile protestant contre la dégradation de la situation sécuritaire de cette zone en proie aux djihadistes. Les syndicats de la région de Gao ont appelé un arrêt de travail de 48 heures ce mardi et demain mercredi pour protester contre l'insécurité grandissante et l'inaction du gouvernement.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Seconde partie de cette couverture spéciale des élections ici aux États-Unis. Les Américains sont aux urnes donc pour les élections de mi-mandat. Ils sont appelés à renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des sièges du Sénat sont donc en jeu. En toile de fond se joue la bataille pour le contrôle du pouvoir entre républicains et démocrates. Mouamadou Mfa, je l'ai dit, est notre reporter dans l'un des bureaux de vote à Arlington en Virginie, dans la banlieue de Washington. Il nous dit l'atmosphère qui prévoit à la mi-journée après déjà plusieurs heures de vote.
Salut Jean-Roger, ici dans le comté de Arlington qui compte 54 bureaux de vote. Les choses se déroulent sereinement pour le moment. J'ai pu me rendre dans deux bureaux de vote, le bureau de vote de la Navy League et puis le bureau de vote de la USAA, United States Army Association. J'ai pu discuter avec les chefs de ces bureaux qui m'ont confirmé que les choses se déroulaient bien et que la participation était assez bonne pour une élection de mi-mandat. Donc, dans le bureau de vote de Navy League, le chef de bureau me disait qu'à 9 heures, ils avaient déjà 217 votants et qu'à 11 heures, le chiffre était passé à 339. Donc, selon elle, cela augurait d'une assez bonne participation. Mais au niveau global, le comté d'Arlington parle d'une participation globale de 10% à 9 heures, ce qui n'inclut pas évidemment les 13% qui ont déjà voté bien avant et puis les 7% qui ont voté par correspondance. Donc ici à Arlington, les choses se déroulent plutôt bien. Les bureaux de vote vont fermer à 19 heures. Et on attend les dépouillements immédiatement après.
Alors, Mouamadou Mfa, vous avez parlé à des électeurs sur place. Quels sont les centres d'intérêt par rapport à ce scrutin particulier?
Oui, j'ai pu discuter avec quelques électeurs qui m'ont dit qu'il était important pour eux de voter, de faire entendre leur voix en ce moment assez critique pour le pays. Vous savez qu'on sort d'une pandémie de COVID-19. Il y a aussi l'inflation. Les gens m'ont dit que les choses coûtent de plus en plus cher, le carburant, les prix sur le marché. Et l'un des électeurs me disait qu'en votant, il espère qu'il y aura un changement au niveau du Parlement, du Capitole, du Congrès, parce que c'est très important à ce niveau, puisque c'est là où se décident les lois qui déterminent la politique de la nation. Donc, les électeurs sont très sensibles aux questions liées au coût de la vie, à l'économie et puis aussi à la sécurité. Vous savez que ces derniers temps, il y a eu des craintes. On n'a pas oublié ce qui s'est passé en janvier dernier, après l'élection, au moment de certifier la victoire du président Joe Biden. Donc, les électeurs ici sont très sensibles aux questions liées à l'économie, à l'inflation et à la sécurité du pays.
Merci à vous, Mouamadou Mfa. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de VOA Afrique à Arlington, en Virginie, dans un bureau de vote. Le Texas est un État traditionnellement républicain. Le gouverneur Greg Abbott est donné favori dans les sondages face à Beto O'Rourke, même si les démocrates semblent gagner du terrain depuis les dernières élections de 2020. Sur les enjeux de ces élections de mi-mandat au Texas, Abdourahman Dia a joint à Houston Aristide Sidibé, analyste politique résident sur place.
Effectivement, j'ai voté la semaine passée et le vote se passe relativement bien. Beaucoup de gens sont sortis pour ce qu'on appelle en anglais le early vote, les votes en anticipation, je crois. Et aujourd'hui, c'est le vote proprement dit. Donc, moi, j'ai voté la semaine passée.
Donc, il y a eu de l'engouement, si on peut dire, aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup ont voté par anticipation, comme vous. Aujourd'hui, même, comment ça se passe?
L'engouement, je dirais, est relativement bon salam, parce que, vous savez, l'électorat ici est un peu divisé et les gens n'ont pas les mêmes priorités. Bon, ce qui fait que l'engouement n'est pas aussi que ça comme si c'est les élections présidentielles.
Alors justement, quels sont les grands enjeux au Texas? On sait que la question de l'immigration est au centre des débats. Comment est-ce que tout cela se présente? Quels sont les grands enjeux?
Bon, effectivement, et si on regarde l'électorat, comme vous l'avez bien dit, l'immigration est un enjeu ici, bon, principalement pour les républicains, il faut dire cela. Mais pour les démocrates, c'est plutôt le droit à l'avortement et le droit à l'insécurité à cause de des violences avec les armes, et l'environnement et la santé. Pour les démocrates, c'est ça les enjeux. Mais pour les républicains qui sont traditionnellement majoritaires au niveau du Texas, c'est l'immigration.
Les républicains sont généralement majoritaires. On a le gouverneur Greg Abbott qui prend un troisième mandat. Face à lui, l'ancien congressman Beto O'Rourke, le démocrate. Quelles sont les chances de Greg Abbott?
Personnellement, moi, je le vois être réélu. Parce que, vous savez, le Texas est un État qui est assez conservateur. Et les enjeux, généralement, pendant ce qu'on appelle les midterms, c'est-à-dire les élections entre mandats, le taux de participation est faible. Généralement, les démocrates font bien pendant les élections présidentielles, et ce qui fait que ça va être très, très difficile. Quand vous regardez les sondages aujourd'hui, le gouverneur Abbott est toujours en tête. Donc moi, je présage une victoire de son camp ce soir.
C'était Aristide Sidibé, un résident de Houston. C'est dans l'État du Texas.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les élections de mi-mandat pour le contrôle du Congrès américain. À 2 ans de la fin du mandat de Joe Biden, les démocrates se battent pour conserver leur courte majorité dans les deux chambres, alors que les républicains espèrent une victoire au sortir des élections du 8 novembre. Leur focus, l'inflation galopante et l'immigration à la frontière sud, tandis que les démocrates misent sur des questions comme le droit à l'avortement et ce qu'ils appellent la menace pesant sur la démocratie américaine. Sur les enjeux de ces élections, rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
La prise de contrôle de Twitter par le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, intervient alors que les États-Unis organisent les élections de mi-mandat. Certains observateurs avertissent des risques de désinformation en ligne sur le processus électoral. Ce reportage est de Tina Tran, le récit est de Nathalie Barge.
Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a utilisé sa plateforme pour dire à ses 114 millions d'abonnés de voter pour les républicains. Suite à cette déclaration, les observateurs se demandent si le service sera une source d'information crédible. Kathy Harbath, ancienne directrice des politiques publiques chez Facebook, a estimé qu'il pourrait être plus difficile pour Twitter de contrôler le contenu électoral depuis que Musk a licencié de nombreux employés.
Je m'inquiéterais juste que les gens croient simplement des choses qui pourraient être sur la plateforme parce qu'ils ne pourraient pas les supprimer assez rapidement.
Twitter est incontournable pour obtenir des informations de dernière minute, tout en regorgeant de comptes factices et anonymes. Michael Edison Hayden du Southern Poverty Law Center.
The concern right now.
Le problème en ce moment, c'est que vous avez un site qui est déjà rempli de mauvaises informations avec des extrémistes à qui on accorde la crédibilité. Cela pourrait empirer.
En prenant possession du réseau social, Elon Musk a tweeté « L'oiseau est libéré », une référence au logo de Twitter et sa critique selon laquelle la plateforme a été trop brutale en suspendant définitivement le compte de l'ancien président Donald Trump. Monsieur Musk a dit qu'à l'avenir, un conseil de modération de contenu avec des points de vue très divers va déterminer les principales décisions de contenu et les rétablissements de comptes. L'incertitude a conduit certaines grandes marques à suspendre leur publicité sur Twitter. Le résultat d'une pression injuste, selon Musk.
Je pense franchement que c'est une attaque contre le Premier Amendement. Si des groupes d'activistes peuvent faire pression sur les annonceurs dont Twitter dépend fondamentalement pour supprimer la liberté d'expression, cela ne semble pas juste.
L'analyste juridique Faiza Patel du Centre Brennan pour la justice souligne que la rentabilité du réseau social est en jeu.
Elon Musk n'a pas acheté Twitter juste pour les gaspiller. Je suppose qu'il veut gagner de l'argent avec. S'il veut en gagner, il veut continuer à faire de la publicité. Et s'il veut garder les annonceurs, il doit s'assurer que les règles de modération du contenu sont raisonnables et appliquées.
Sous l'ancienne direction, seuls certains comptes pouvaient obtenir l'ajout d'une coche bleue à leur profil en guise de gage d'authenticité. Elon Musk a lancé une refonte du système afin que chacun puisse obtenir ce badge et d'autres outils pour 8 $ par mois.
Voilà, c'était Michel Joseph et non Nathalie Bache pour ce reportage sur Twitter. C'est la fin de cette édition dans quelques instants. Voilà, Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin, un grand merci. À la rédaction et à toute l'équipe de production, rendez-vous sur notre site internet, theafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.